Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Les Rendez-vous du Mantois. Chaque vendredi à 8h03, nous donnons la parole à un élu du Mantois. Un échange en direct de 20 minutes. Et en cette fin de semaine, avant que ne débutent les vacances scolaires, nous sommes à Mézières-sur-Seine, la belle endormie de 4000 habitants, située pile entre Paris et Rouen, entre campagne en haut et urbanité en bas. Véritable épicentre du territoire du Grand Paris Seine-et-Oise. Et pour en parler, je suis en compagnie de Franck Fontaine, maire de la commune depuis 2020 et également vice-président au développement durable pour GPSEO. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau. Avec vous, eh bien, ce matin, nous parlerons de l'augmentation des impôts que vous avez souhaité du quartier de la gare en vue de l'arrivée d'Éole et de votre travail au sein du Grand Paris Seine-et-Oise. Donc tout d'abord, eh bien, revenons sur le conseil municipal en début de mois, le 3 avril exactement, où le budget de la commune a été voté, dont une hausse de la taxe foncière de 6,5%.
Alors que j'ai souhaité, que les élus ont souhaité, c'est un grand mot puisqu'il s'agit d'une décision impopulaire, d'une décision qui a été difficile à prendre, d'une décision qui nous embête nous-mêmes puisqu'on reste contribuable, mais d'une décision importante vous le savez tous, le contribuable le sait, les coûts de l'énergie ont été multipliés par deux. Donc quand vous avez une facture comme Mézières à presque 200 000 euros qui passe à 400 000, ça fait mal au portefeuille aussi de la commune. Le SMIC, on le dit pas beaucoup, mais le SMIC en 2022 était augmenté 3 fois, et donc c'est un impact sur les finances de la commune. La revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, 3,4 points, c'est presque 100 000 euros aussi en moins pour la commune. Alors c'est bien pour les agents de la commune, puisqu'ils n'ont pas été revalorisés depuis 2009, mais c'est un impact financier. Et puis l'augmentation des matières premières. Donc si on souhaitait garder un autofinancement satisfaisant pour pouvoir continuer d'investir, et vous l'avez dit en préambule, Mézières-sur-Seine était la belle endormie que nous avons réveillée, si on voulait pas qu'elle se rendorme, mais qu'on voulait bien rester dans la même dynamique, il faut qu'elle soit en capacité d'investir, notamment, et vous l'avez dit, on va en parler, avec l'arrivée d'Éole, donc l'arrivée de nouveaux habitants, le besoin en équipement, il faut de l'investissement, et s'il faut de l'investissement, il faut de l'autofinancement. Donc pour ça, on a dû faire le choix d'augmenter les impôts.
D'autres communes ont fait, par exemple, le choix de fermer des équipements, de supprimer peut-être des postes.
Oui, on s'est posé la question, on a longuement débattu au sein de la majorité, mais c'est absolument pas dans notre ADN que de fermer les services. On s'est dit, comme certaines communes, on peut fermer l'enfance jeunesse, on peut fermer l'espace jeune mésirois, mais que vont faire nos jeunes de 15 à 18 ans? C'est pour nous, c'était pas possible que de fermer ce service, où on peut dire on ferme France Service, c'était le dernier service ouvert, mais ça rend tellement service aux habitants qu'on peut pas se permettre de fermer ce service. Où on aurait pu se dire aussi on fait plus de feux d'artifice, on aurait pu se dire comme certains, on fait plus de repas des anciens. Mais les anciens, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont plus que ça aujourd'hui, ils contribuent très largement à la fiscalité communale, et on leur offre qu'un repas des anciens tous les ans. Donc ça aurait, pour nous, c'était pas possible. Donc tout ça pour économiser des bouts de chandelle. Alors c'est vrai que c'est avec des rivières et beaucoup de rivières qu'on fait des grands fleuves, mais on pouvait pas, nous souhaitions pas. Alors bien évidemment, on fera des économies et ce que je disais en conseil municipal, quand on faisait une pièce de théâtre tous les ans, on continuera à la faire, mais au lieu de prendre une pièce de théâtre à 3000 euros, on en fera une à 1500 euros. On fait des petites économies sur tous les événements, mais tous les événements habituels à Mézières-sur-Seine auront lieu.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cherché malgré tout des points pour trouver.
Exactement.
Un peu...
Parce que aujourd'hui, Mézières-sur-Seine doit rester vivant, doit rester en vie et doit être une commune très attractive sur notre territoire. Comme vous l'avez dit aussi en préambule, c'est l'épicentre et il faut que les gens continuent d'avoir envie de venir vivre à Mézières-sur-Seine et non pas simplement de venir y habiter.
Vous avez dit, c'est une mesure qui peut être impopulaire. Est-ce que ça vous semble risqué?
La vie est faite de risques. Quand on prend la décision d'être un élu du peuple, un élu des habitants, et qu'on se promène tous les jours dans la rue, il se passe quasiment pas aujourd'hui, depuis qu'on a voté et qu'on a pris cette décision, une journée sans que j'en parle aux habitants. Il faut prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Si j'avais, avec les élus, pris la décision de fermer France Service, ça aurait été un problème. Si j'avais pris la décision de fermer l'espace jeune Mézières-Rois, ça aurait été un problème pour les jeunes. C'est vrai que ça aurait été plus facile, puisque ça aurait été un problème à chaque fois que pour une partie de la population, et non pas pour toute la population. Là, on a pris une décision qui demande de la solidarité. à une très large partie de la population, puisqu'on parle des propriétaires fonciers, ce qui est 80% de mes habitants aujourd'hui. Donc forcément, c'est impopulaire, mais je l'assume, et je l'assumerai jusqu'au bout.
Comment ça a été perçu ?
Aujourd'hui, quand j'en parle aux habitants, alors, ils n'ont pas encore reçu la facture. Ils vont la recevoir en septembre. Mais quand je leur en parle, ils me disent « Monsieur le maire, la ville a tellement changé depuis 2020 qu'on peut pas vous reprocher que de vouloir rester dans cette dynamique. » Et ils ont absolument pas envie de redevenir une cité dortoir comme on était, où les gens font métro, boulot, dodo, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, ils sont aigris parce que le voisin, il tond sa pelouse le dimanche et ils se parlent pas. Enfin, j'avais été surpris en 2020 quand je suis arrivé, tous les conflits de voisinage qu'il y avait, juste parce que les gens ne se parlaient pas. Et le fait de rendre cette ville dynamique, avec beaucoup de manifestations sur lesquelles je suis toujours présent, ça permet de lutter contre ces incivilités, de au-delà de la rendre dynamique pour nos commerçants aussi. On a ouvert beaucoup de commerçants depuis qu'on est là, entre le tatoueur, une épicerie, la boulangerie, la France Service. Tout ça fait qu'il y a un grand dynamisme qui est revenu à Mézières, qu'on n'avait plus depuis plus de 20 ans.
Vous l'avez dit, la ville a changé et on en parlait au début. Aujourd'hui, Mézières-sur-Seine, c'est une commune d'à peu près 4000 habitants, mais dans les années à venir, le nombre d'habitants va augmenter avec la création du nouveau quartier de la gare.
Alors oui, il y a le nouveau quartier de gare avec l'arrivée d'Éole entre Épône et Mézières, près de 700 logements, dont 400 à peu près sur Mézières.
Et il va aussi y avoir du coup une ouverture d'école ?
Oui.
Pour tout ce monde qui va arriver, justement.
Exactement. Une école pluricommunale avec un gymnase aussi que nous souhaitions, les élus, puisque sur Mézières, bon, on est une ville qui évolue, mais on n'a pas de gymnase. On a un très gros tissu associatif avec beaucoup de demandes de sport et tous les sports. Et donc, du coup, on veut profiter aussi, encore une fois, quand je l'ai dit dans la campagne, on peut être contre les projets de construction. On dit on est contre, on n'est pas des bâtisseurs, on est contre. Mais du coup, on subit. Alors qu'on pourrait accompagner en étant favorable, et du coup, on construit. Et notre façon de voir les choses aujourd'hui avec les élus majoritaires, c'est de construire l'avenir et de tout anticiper. Et aujourd'hui, on veut profiter de ce quartier de gare pour travailler le parcours résidentiel, pour nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, nos enfants, j'ai des filles qui ont 20 et 22 ans, elles ont quitté la commune parce qu'on ne leur propose rien. Qui, à 20 ans, s'achète un pavillon à 400 000 euros ? Personne. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions et ce nouveau quartier est une des solutions, une des réponses pour vendre des appartements à 180 000 euros pour un primo-accédant qui va un jeune couple, enfin voilà, avec une école pour quand ils feront un enfant et peut-être qu'ils vendront leur premier appart pour en acheter un plus grand et puis ils termineront dans une maison dans le centre-ville et peut-être que proche des 40 ans, ils achèteront leur pavillon à la Villeneuve, donc à la hauteur de Mézières.
Sur les habitations, il y aura aussi une partie de social.
Oui, 40% de social. Aujourd'hui, nous sommes en retard sur la loi SRU, la loi Duflot. Nous avons que 13% de logement social sur Mézières et nous devons atteindre 25%. Donc forcément, il ne peut plus sortir un projet à Mézières-sur-Seine sans qu'il n'y ait au minimum 40% de logement social.
Vous le disiez, eh bien justement, Éole. En vue de l'arrivée d'Éole, on sait à quel point Éole a pu prendre du retard. Où est-ce qu'on en est dans les phases de votre nouveau quartier de gare ? Au niveau des dates et comment ça va se passer ?
Alors aujourd'hui, il y a deux, trois périmètres d'études qui sont en cours. On espère que d'ici un an, ils seront terminés. Le premier, c'est tout ce qui est enquête environnementale, faut que ce soit terminé. Deuxièmement, tout ce qui est lié à la pollution et au bruit. Et enfin, vous avez certainement entendu parler de la ligne Paris-Normandie. La SNCF est en train de travailler sur ces terrains de manière à les geler pendant une période d'un an et puis à réduire le faisceau de cette troisième voie qui va nous permettre d'arriver en gare de Mantes-la-Jolie. Mais une fois que tout ça sera fini d'ici une bonne année, on va pouvoir mettre les premiers coups de pioche pour pouvoir construire les premiers bâtiments.
Et concrètement, ce quartier de gare, il peut être sorti vraiment de terre quand ?
Alors, moi, sincèrement, je pense que, en étant raisonnable, le premier bâtiment ne sortira pas avant la fin de ce mandat. Donc, ça veut dire pas avant 2026. Certainement que je serai le maire qui fera de la concertation avec les habitants pour savoir le visuel architectural du premier lot. Mais je n'en verrai certainement pas dans mon mandat les aboutissements. voilà, on façonnera, on commencera à façonner, mais c'est pas nous qui verrons le premier coup de pioche. Et terminé, je pense, pour préciser votre question, un quartier de gare globalement terminé en 2035.
Vous le disiez, en concertation avec les habitants, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez déjà commencé à faire pour leur demander leur avis, c'est important.
Alors sur tous les projets, on concerte les habitants en amont. Et puis, je l'ai dit aussi à tous les promoteurs immobiliers, je veux aussi que sur chaque lot, nous ayons un architecte en mission complète. Et cet architecte nous fera 2, 3, 4 scénarii que nous mettrons dans la galerie arc-en-ciel, puisque nous avons la chance d'avoir une galerie avec une vue sur l'extérieur, de manière à ce que les habitants viennent choisir l'architecture qu'ils ont envie dans tel ou tel quartier.
Voilà. Pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire, on va dire, en quelque sorte. Et ce qui en est ressorti, c'est de la verdure. Les gens ont envie de continuer à avoir cette verdure qu'on a d'ailleurs depuis votre bureau aussi, c'est important.
On l'a vu dans la concertation que nous avons réalisée l'été 2021, les habitants sont prêts à accepter de la hauteur, nous sommes dans un nouveau quartier, donc Mézières de demain sera un quartier très moderne, le quartier de gare, un quartier plutôt commercial et périurbain, là où nous sommes actuellement dans la rue Nationale, et puis on va dire un quartier un peu plus historique et très rural, qui est le quartier du haut de la Villeneuve. Donc Mézières de demain sera vraiment, on va dire, je vais pas dire trois Mézières, mais vraiment trois quartiers différents. Et quand on a fait la concertation avec les habitants, tous nous ont dit ce qu'il faut à tout prix, c'est d'avoir de larges espaces publics pour privilégier le vélo, le piéton, la biodiversité en ville, des arbres pour se protéger de la chaleur, etc. Et voilà, ne pas avoir peur des hauteurs, avoir aussi des logements traversants, avoir des logements avec des plafonds de 2,70 m, on va arrêter les cages à poules avec des petits plafonds, et puis avoir des espaces extérieurs, parce que l'avantage de jouer avec les hauteurs, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des rooftops pour que chaque appartement, non seulement soit traversant, mais surtout ait son propre espace avec un vrai rooftop et pas un petit balcon où on galère à mettre un sèche-serviette, quoi. Voilà.
Donc là, on est vraiment sur un quartier de la gare tout nouveau, en tout cas dans l'esprit, mais aussi dans la modernité, et qui s'inscrit aussi comme avec une idée un peu écologique et un peu à développement durable, ce qui nous amène forcément à votre vice-présidence. Vous êtes le troisième vice-président du Grand Paris Seine-et-Oise, délégué, on le disait, au développement durable. En quoi ça consiste exactement?
Alors, ma délégation, d'une part, consiste à préparer tout ce qui est stratégique. Par exemple, dès qu'on a été élu, j'ai fait voter le plan climat, le PCAET, le plan climat air énergie territorial, dans lequel on va parler des énergies renouvelables, de la qualité de notre bâti et de la rénovation thermique des bâtiments, etc. Ça, tous les axes stratégiques. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur schéma directeur multi-énergie, que j'espère faire voter d'ici cet été.
Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est le schéma directeur multi-énergie, c'est vous cartographiez GPSO, donc de Conflans à Méricourt, et puis vous décidez, enfin, avec des bureaux d'études, et vous décidez qu'à cet endroit-là, on doit mettre du photovoltaïque, à cet endroit-là, on doit mettre de la méthanisation, à cet endroit-là, on peut mettre des éoliennes, n'ayez pas peur, il n'y en a pas de prévu, mais voilà, dire. Parce que dans notre plan climat, on avait dit que d'ici 30 ans, on veut avoir 20% de production d'énergie renouvelable, ce que nous impose la loi, mais aussi les ambitions que les élus se sont fixées. Mais pour ça, c'est bien beau de se le dire et de se l'écrire, il faut aussi planifier où et quand on va et quel type on va mettre d'énergie renouvelable sur le territoire. Et donc, ce schéma directeur multi-énergie permet d'anticiper tout ça et de faire voter les élus en disant, personnellement, par exemple, un des axes, c'est de dire, il doit plus construire demain un seul bâtiment avec accrotère, vous savez, avec toit plat, sans qu'il y ait des panneaux photovoltaïques sur les toits. Ça ne doit plus être possible sur notre territoire. Et ça, il faut l'écrire, il faut l'acter. Et le schéma directeur multi-énergie permet ça. Je travaille aussi sur le plan de prévention du bruit, d'ailleurs qui est en enquête publique sur le site de GPSO. Le plan est renforcé pour la qualité
d'air. Donc les gens peuvent aller donner leur avis.
Oui. Sur le site de GPSO, il y a le projet le plan de prévention du bruit. Vous avez gpso.fr. Et puis, vous pouvez répondre à l'enquête publique qui est en cours. Le plan est renforcé. On travaille sur l'atlas de la biodiversité pour anticiper via tous les projets d'aménagement. La biodiversité en ville, le maillage de la biodiversité. en synthèse une compétence, développement durable, transition écologique, qui est extrêmement transversale, d'où le fait que la présidente est choisie comme troisième vice-présidence. C'est une compétence transversale et tous les services travaillent avec nous. Et puis enfin, faire partie, en tant que troisième vice-président, faire partie de l'exécutif, c'est aussi accompagner la présidente dans les décisions stratégiques de GPSO, par exemple rapprocher GPSO des maires et faire que GPSO ne soit plus, comme elle a pu l'être quand je n'étais pas là, une instance supracommunale, mais redevienne une instance à disposition des maires, redonner le pouvoir aux maires qui sont élus au suffrage universel direct et qui ont la confiance absolue de leurs concitoyens.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur hein, quand vous avez démarré avec eux. Oui. Pourquoi c'était si important ?
Parce que on voit très bien que moi, en tant que maire notamment, les habitants, c'est moi qui viennent voir. Aujourd'hui même, je vais vous faire sourire, mais un habitant qui a une panne d'électricité, il appelle le maire. Alors c'est vrai que j'ai une commune de 4000 habitants et je suis pas Mantes-la-Jolie à 45 000, mais je vous garantis qu'ils ont une panne d'électricité, ils appellent la mairie, qu'est-ce que je fais, j'ai plus d'électricité. Ils se disent pas, bah, simplement je vais appeler l'EDF. Non, ils appellent la mairie. Donc quand il y a un souci avec GPSO par exemple, moi j'ai eu un souci avec les encombrants, c'est important que le maire ou en tout cas les services de la mairie puissent interpeller GPSO et que GPSO soit à notre disposition pour apporter le vrai service public aux habitants. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce soit la mairie ou que ce soit GPSO, ce sont nous-mêmes, parce que avant d'être élu, je suis aussi un citoyen et un habitant, ce sont bien avec nos impôts que nous payons ce service public et ce qu'on doit rendre aux habitants, c'est bien un service public opérationnel, de qualité, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui les habitants.
Et ce que vous voulez aussi hein, pour les habitants et pour la commune, c'est de remettre de la vie. On le sait, ça passe aussi par des événements et des moments de fête. Et les 20 et 21 mai prochains, une fête communale va être organisée.
Alors oui, en effet, si vous savez pas trop quoi faire, alors faut pas venir trop nombreux parce que l'année dernière, il y avait trop de monde. Mais j'en fais quand même un peu la publicité. C'est la fête de la commune de Mézières-sur-Seine 20 et 21 mai. Donc le samedi soir, des spectacles de rue, spectacles ambulants, autour d'un repas républicain. Il y aura des food trucks pour ceux qui n'ont pas envie d'amener leurs saucisses et leurs merguez puisqu'on met des barbecues à disposition. C'est quelque chose aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, redynamiser, faire revenir de la ville, faire revenir de la vie dans cette commune. Le fait de mettre des barbecues à disposition et qu'on partage des saucisses et des merguez entre voisins sur une commune en Île-de-France, c'était important de le faire. On s'est tapé le culot de le faire, tout comme remettre le carnaval. Tout le monde m'a dit, non mais Franck, un carnaval en Île-de-France. Ben oui, mais on va remettre le carnaval. Et en fait, il y avait beaucoup de monde. Les gens ont besoin de ça. Donc, si vous savez pas quoi faire, le samedi 20 mai, venez profiter de ces spectacles de rue. À l'issue de ça, vous avez un feu d'artifice. Et puis, toute la semaine et ce week-end-là, il y a une fête foraine autour de cette fête communale.
C'est la convivialité hein, que vous cherchez.
Exactement.
Essayez de tisser des liens entre les habitants.
Exactement, que les habitants se connaissent, se parlent, et aussi connaissent les élus. Quand j'ai fait la campagne, il y avait plein de gens qui me disaient « Non mais nous, c'est cool, mais le maire on le connaît pas, on connaît pas les élus. » Et quand j'ai fait l'équipe, je leur ai dit « Je vous préviens, je veux à tout prix que sur tous les événements, il y ait un maximum d'élus. Parce que je veux que les gens nous connaissent, nous reconnaissent dans la rue, nous interpellent, nous disent ce qui va pas. Et on est à leur disposition, on s'est engagé sur 6 ans, et on est à leur disposition pendant 6 ans. Donc c'est important que sur ces événements-là, moi tous mes habitants, je le savent. Sur tous les événements, si petits soient-ils, même une kermesse des écoles, je suis présent sur tous les événements de la commune.
Et les gens en profitent pour venir vous voir ?
Ah oui, oui, oui. Oui.
Ils vous amènent leurs problèmes, leurs solutions ?
Alors il y a souvent des petits problèmes, soit de voisinage ou soit un trou dans la chaussée. Enfin voilà, mais ça fait partie de mon boulot, donc j'ai toujours un papier sur moi, j'écris, après je vais voir les services techniques, je dis voilà. Telle adresse, il y a un souci. Donc les gens sont contents parce qu'ils sont aussi écoutés. Et puis parfois c'est plus ça arrive quand même souvent des décisions, des discussions autour soit de la politique nationale, soit de la politique générale de la commune. Ma vision, pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi par exemple j'ai ouvert France Service. Et les habitants aujourd'hui ils en sont extrêmement satisfaits avec la Poste qui est ouverte du mardi au samedi. Enfin, il y a aucune ville n'a ça. Je suis sûr, même à Mantes-la-Jolie ils n'ont pas de nous. La Poste n'a pas nos amplitudes horaires et pour moi en tant que j'étais cadre dans le privé, c'est vrai que quand je recevais un recommandé, je me disais faut que je pose ma demi-journée pour aller chercher un recommandé à la Poste, alors qu'aujourd'hui notre bureau de poste il ferme à 18h30. Je pense que voilà, c'est beaucoup plus adéquat.
C'est déjà la fin de notre émission. Merci monsieur le maire de nous avoir reçus dans votre mairie.
Merci à vous.
Merci chers auditeurs de l'avoir suivi. J'en profite également pour remercier notre réalisateur à la technique ce matin. Vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Les rendez-vous du Mantois reviendront vendredi 12 mai. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale. Tout de suite, c'est le retour de Robin dans la matinale sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.
6h-9h, c'est la matinale sur BPM.